Quand on entend les trois textes que les jeunes nous ont lus, quand on les entend l'un après l'autre, on entend l'histoire d'une évolution, d'un changement et même de plusieurs changements. Nous sommes passés de l'appel à l'aide individuelle d'une seule personne, d'où me viendra le secours, à l'encouragement de tout un peuple, pour arriver avec Paul à la recherche commune du bien de tous. Œuvrons pour le bien de tous en portant les fardeaux les uns des autres. Alors regardons d'abord le psaume. Les psaumes dans l'Ancien Testament, c'est le moment où on peut parler à Dieu à la première personne du singulier en disant « je ». Pas toujours. On trouve aussi beaucoup de « nous », bien sûr. Mais aussi souvent, et en particulier ici. Et c'est une des raisons pour lesquelles je crois que nous aimons lire, dire ou chanter les psaumes. En lisant un psaume, je dis « je », moi aussi, mais je le dis avec les mots de génération et de génération de chercheurs de Dieu. Et donc, dans ma recherche d'une forme de proximité avec cela qu'on appelle Dieu, je m'approprie les paroles de toutes ces générations, je les assume. Et ce n'est pas toujours facile, de nombreux psaumes sont très violents. Mais d'une manière ou d'une autre, ces paroles nourrissent ma propre recherche. Et le psaume que nous venons d'entendre exprime une inquiétude au moment du départ. D'où me viendra le secours? Mais voilà que la réponse arrive par une autre voie. D'abord une voix intérieure, le secours me vient du Seigneur. Un peu comme si le psalmiste, celui qui compose le psaume, parlait tout seul. Et très vite on va passer à la deuxième personne, quelqu'un d'autre lui répond. Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ta vie. Alors non seulement le pèlerin sur le point de partir a obtenu une réponse, mais vous l'avez sûrement remarqué, c'est une réponse qui lui rappelle aussi qu'il fait partie de tout un peuple, puisque celui qui va veiller sur lui, c'est celui qui ne sommeille ni ne dort jamais, le gardien de tout Israël. Et donc, si on imagine que ce psaume était chanté par plusieurs personnes ensemble au moment du départ, c'était déjà un acte communautaire. Dans le même temps où chacun ressentait l'angoisse en son fort intérieur, dans le même temps, chacun rassurait son voisin en lui disant d'avoir confiance parce que le Seigneur était là pour tous. Alors, dans le cas de Moïse, c'est encore plus évident. J'ai remarqué que dès qu'on mentionne cette histoire, les gens qui la connaissent commencent à sourire. Ah oui, les bras de Moïse, l'histoire des bras de Moïse. Et alors, je me suis posé la question, et on peut se la poser ensemble, pourquoi aimons-nous tellement ce texte ? D'abord une information, beaucoup de biblistes pensent que ce texte a été écrit par au moins deux personnes, et peut-être à deux époques différentes. La première a juste raconté l'histoire de Moïse et de Josué. Josué qui se bat dans la vallée, pendant que Moïse, debout sur la colline, lève son bâton vers le ciel. Le bâton de Moïse, le même dont il est question depuis le début, celui avec lequel il a frappé la mer pour qu'elle s'ouvre et le rocher pour qu'il donne de l'eau. Et une deuxième personne aurait ajouté à Aaron et Hur pour donner en fait de l'importance aux prêtres, puisque les descendants d'Aaron et Hur deviendront prêtres, seront considérés comme prêtres. Et Aaron, vous le savez, c'est le frère de Moïse. Quant à Hur, on ne sait pas très bien, c'est la seule fois en fait où son nom en tant que personne apparaît dans l'Ancien Testament, mais probablement, enfin des commentateurs juifs ont interprété ça, le nom, comme étant celui du beau-frère de Moïse, le mari de Myriam, de sa sœur Myriam. Ça n'a pas une grande importance, mais c'est sans doute pour ça, parce que le texte a été rédigé à des époques différentes et par des personnes différentes, qu'à certains endroits, peut-être l'avez-vous remarqué, on parle de la main de Moïse, la main qui tient le bâton, et qu'à d'autres, on parle de ses mains levées dans une attitude d'invocation, de prière, bien sûr. Ça change un peu la perspective, parce que d'habitude, on a Moïse comme chef unique, avec Josué qui va prendre la suite. Et pour une fois, il s'agit ici d'une action collective. Et en plus, j'en profite pour le dire, elle améliore un petit peu l'image du pauvre Aaron, parce que depuis l'épisode du veau d'or, il n'avait plus tellement la côte. Donc là, il a un rôle au contraire très positif. Et alors, dans les Targoum, les traductions de l'Ancien Testament en araméen, avec des additions et des commentaires, il y a aussi beaucoup de discussions, bien sûr, sur cette scène, et en particulier sur le fameux bâton. Mais alors, si Moïse avait les deux mains levées, quelle main tenait le bâton ? Eh bien, tu comprends, comme Moïse avait les deux bras levés, quand il avait mal à la main droite, il pouvait faire passer le bâton dans la main gauche, en plus de l'aide d'Aaron et Hur. C'est une histoire qui nous fait sourire. Je le vois encore là et ça me fait plaisir. Et elle nous plaît aussi parce qu'elle a un peu l'air d'une fable, d'une parabole. Et d'une certaine manière, c'en est une. C'est une parabole. Si on la creuse un peu, elle est très profonde. Elle montre que non seulement nous avons besoin les uns des autres pour nous encourager, mais que cette action encourageante de Dieu, représentée ici par l'intermédiaire du bâton, cette action ne peut être ressentie par les humains que s'ils unissent leurs efforts et se soutiennent les uns les autres. Non seulement l'encouragement de Dieu s'adresse à tous, mais pour qu'il soit efficace, Dieu a besoin que les humains s'unissent et s'entraident. Dieu a besoin de nous pour agir. Nous le savons tous, nous y pensons quelquefois. Mais après tout, il n'est pas forcément inutile d'y réfléchir maintenant, aujourd'hui, en ce culte de rentrée, précisément pour les raisons que Paul explique aux Galates. Dans le passage qui nous a été lu est particulièrement bienveillant par rapport à l'ensemble de la lettre de Paul aux Galates, qui est plutôt très sévère pour d'autres raisons, à vrai dire. Mais c'est à peu près le seul où il n'est pas en train de leur faire des reproches. J'ai eu du mal à le trouver. Ce n'est pas pour rien qu'il commence en les appelant « frères », pour les ramener à l'essentiel. Et il les encourage, parce qu'il se rend compte que leur vie en Église, avec toutes les critiques qu'il a formulées, elle n'est quand même pas toujours facile. « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez la loi du Christ. » C'est souvent plus facile à dire qu'à faire. D'abord, on n'a pas toujours envie de raconter ses malheurs à tout le monde, même en Église, même à des frères et sœurs d'Église. Et puis quand quelqu'un vous les raconte, on le sait bien, on se sent à la fois compatissant et souvent complètement désarmé. Mais c'est quelquefois l'occasion de jeter le masque, de vaincre sa pudeur, de ne pas craindre de se mettre en danger, pour se libérer soit d'un peu de tristesse, soit pour offrir à quelqu'un une manifestation de fraternité très ordinaire, quelquefois même un simple geste. Et ces occasions-là, bien sûr, nous ne devons pas les laisser passer. Mais il faut bien le reconnaître, quelquefois, pour nous, les fardeaux se vivent aussi en Église. Et peut-être que c'est cela dont Paul parle avant tout. Pour ceux qui ont des responsabilités en Église, et ils sont nombreux aujourd'hui parmi nous, bien sûr, il y a d'abord et avant tout la joie dans le service, la joie de répondre, comme nous le pouvons, au pressant appel qui nous habite. Et dans ce service, les difficultés ne sont pas des obstacles. Elles font partie du service. Mais il y a aussi les exigences de la vie avec lesquelles il faut bien composer. Et surtout, quelquefois, ce sentiment de solitude qu'on découvre dès qu'on accepte une responsabilité. Ce sentiment que beaucoup d'entre nous connaissent. Ce sentiment qui, tout simplement, va nous obliger à accepter nos limites. Le sentiment que Dieu a besoin de nous, même si, bien sûr, nous savons que nous n'en ferons jamais assez. Le sentiment, donc, d'une responsabilité qui nous dépasse. Et que, donc, comme dans le psaume, nous devons lui remettre avec confiance au départ et au retour. Et nous sommes tous appelés, tous, à accueillir ce sentiment, à le laisser agir en nous, et à y répondre comme nous le pouvons, sans complaisance envers nous-mêmes, mais en acceptant nos difficultés et nos limites. Et j'en profite pour exprimer ma profonde reconnaissance à celles et ceux d'entre vous qui ont déjà permis à cette année de transition de démarrer de manière dynamique et encourageante. Voilà, je vous ai proposé ces lectures pour ce culte de rentrée parce qu'il m'a semblé qu'elles pouvaient nous éclairer sur ce qui est attendu de nous et la manière dont nous pouvons y répondre. Dans notre monde, la plupart du temps, les efforts sont moins valorisés que la réussite. Eh bien, je vous propose d'inverser ce système de valeurs. Il s'agit simplement de persévérer, avec lucidité et sans complaisance envers nous-mêmes, mais toujours avec bienveillance envers les autres et dans la confiance. Amen.